le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Après avoir poussé les portes de citoyens francophones, Béatrice Delvaux a repris sa transhumance en Flandre. La question de départ est la même et vous allez l'entendre, les réponses aussi. Mais d'abord, le Parlement européen a adopté la réforme de la politique migratoire européenne. On vous explique dans un instant. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
C'est officiel, les parlementaires européens ont adopté la vaste réforme de la politique migratoire de l'Union. Le sujet était sur la table depuis 2015 et alimentait de vives tensions entre les États membres. Un grand pas pour l'Europe, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, mais cette réforme fortement controversée ne semble pas faire consensus. Quels sont les dessous de la réforme? Comment les 27 se sont-ils mis d'accord après tant de mésententes? Pour répondre à toutes ces questions, Camille Terlinden reçoit Hugo Santquin, journaliste au pôle international.
Bonjour Hugo.
Bonjour Camille.
Ursula von der Leyen a qualifié cette adoption d'historique. Qu'est-ce qui a finalement permis ce compromis après tant d'années de tensions?
Tout d'abord, il faut remonter à plusieurs années en arrière, donc la crise des réfugiés syriens en 2015-2016. À l'époque déjà, on parlait de réformer la politique migratoire européenne. Ça n'avait pas abouti. Les États du Sud demandaient plus de solidarité des États membres du Nord, mais les États membres du Nord, eux, demandaient à ces pays du Sud de prendre leurs responsabilités dans l'accueil de ces demandeurs d'asile. Et donc finalement, en 2020, la commission von der Leyen a remis cette réforme de la politique migratoire sur la table. Alors ça n'a pas été facile, hein. On était toujours confrontés à ce même problème. Les pays du Sud étaient acculés, les pays du Nord disaient aux pays du Sud de prendre leurs responsabilités. Finalement, il y a eu un vote du Conseil à la majorité qualifiée qui a permis un accord. Seule la Hongrie de Viktor Orban, sans surprise, a rejeté cet accord et le rejette d'ailleurs toujours. Et puis, en décembre dernier, on a eu droit à un round de négociations très intensif entre le Conseil et le Parlement. Ça a été un petit peu un round de négociations assez chaotique. On sentait bien qu'on était dans un contexte de fin de présidence espagnole. En fin d'année, on sentait bien que les négociateurs voulaient aboutir à un deal avant le début de la présidence belge au 1er janvier 2024. Et donc, dans ce contexte-là, le Parlement a un petit peu lâché du lest. Et c'est comme ça qu'on est parvenu à un accord. Et puis, avril 2024, le Parlement a finalement voté le pacte en plénière.
Que prévoit concrètement cette réforme?
Alors, dans les grandes lignes, le but de la réforme, c'est renforcer la lutte contre l'immigration illégale, réduire le délai de traitement des demandes d'asile via notamment un système de filtrage, accélérer encore la reconduction aux frontières des personnes en situation irrégulière et rendre les États membres plus solidaires via notamment un mécanisme de solidarité obligatoire mais flexible. Et là, on peut peut-être souligner que ces deux adjectifs sont un petit peu contradictoires.
De nombreuses associations de défense des droits humains s'étaient opposées au projet de pacte. Pour quelles raisons? Leurs revendications n'ont finalement pas été prises en compte?
Jusqu'à la veille du vote en plénière des parlementaires, 160 ONG, et pas des moindres, avaient demandé aux eurodéputés de rejeter ce pacte. Et même pendant le vote, des militants des droits humains ont fait irruption dans l'hémicycle pour demander aux eurodéputés de ne pas voter ce pacte. Alors, ce que les ONG et les militants des droits de l'homme dénoncent, c'est la détention de facto à la frontière, même des familles avec enfants, ce qui rappelle un petit peu le modèle des hotspots sur les îles grecques, le fait que le droit d'asile se restreint de manière générale, le fait qu'on criminalise les migrants à leur entrée sur le sol européen, le fait qu'il n'y ait rien sur l'établissement de voies sûres et légales pour les migrants, ce qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de morts en Méditerranée puisque les voies migratoires sont de plus en plus dangereuses et les personnes qui fuient la guerre, les conflits et les difficultés économiques sont prêtes à tout pour arriver en Europe. Et puis enfin, c'est ce fameux mécanisme de solidarité qui est brandi par les défenseurs du pacte. Et là, on peut citer les trois grandes familles politiques que sont les conservateurs, les libéraux de Renew et les sociodémocrates. Eux brandissent vraiment ce mécanisme de solidarité, mais comme je le disais, qui n'en est pas vraiment un. En tout cas, il est obligatoire, mais flexible. C'est-à-dire que quand un État membre, souvent du Sud ou de l'Est de l'Union européenne, sera face à une arrivée massive de migrants, celui-ci pourra solliciter l'aide des autres États membres, et là on pense aux États membres du Nord, pour que ceux-ci prennent en charge un certain nombre de demandeurs d'asile, ou alors aident le pays confronté à une crise de manière financière ou matérielle. Mais ce principe de solidarité ne remet pas vraiment en question le système tant décrié de Dublin, qui stipule que le premier pays d'entrée dans l'Union européenne est responsable du traitement du dossier du demandeur d'asile.
Que se passe-t-il maintenant ? Le pacte doit-il encore passer devant le Conseil européen ? Quand rentrera-t-il en vigueur ?
Alors, fin du mois, les États membres doivent formellement adopter le pacte. Il sera ensuite inscrit au journal officiel et il entrera en vigueur au printemps 2026. Soulignons que ça fait quand même plus de 10 ans après la crise des réfugiés syriens.
Il est question d'une mise en place d'un plan commun de mise en œuvre pour accompagner les États membres dans ce processus. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Philippe de Brucker, qui est un spécialiste de l'immigration et du droit européen à l'ULB, utilise une métaphore qui est assez parlante. Il dit que la grossesse a été longue, le travail et l'accouchement compliqués, mais maintenant que le bébé est là, il faut s'en occuper, il faut s'en charger. Pour lui, la mise en œuvre du pacte va être encore plus dure que sa négociation, notamment pour les pays du Sud qui vont devoir investir dans des infrastructures, dans du personnel, dans des moyens technologiques et informatiques. Et ça, comme je disais, c'est de l'investissement et donc c'est un problème aussi financier. Alors, fin du mois, Nicole Demore, la secrétaire d'État à l'asile et la migration en Belgique, dans le cadre de la présidence belge, va réunir ses homologues et notamment les agences concernées pour préparer cette mise en œuvre. Et enfin, avant les élections, la Commission va annoncer son plan d'attaque pour accompagner les États membres. Mais pour en savoir plus, il faut vraiment être dans le secret des dieux, comme disait le spécialiste Philippe de Brucker.
Merci Hugo.
Merci Camille.
À quelques semaines des élections, le soir voulait sonder la largeur du fossé qui sépare les citoyens et les politiques. Notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux, a donc sillonné la Wallonie et Bruxelles pour aller à votre rencontre. Elle a repris son baluchon pour aller frapper aux portes en Flandre, avec toujours une question pour briser la glace. Goeiedag, gaat u stemmen ? Comment a-t-elle été reçue ? Les réponses des citoyens étaient-elles différentes au nord et au sud ? Elle nous explique.
Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette opération porte en Flandre ? On en avait déjà parlé pour la Wallonie et Bruxelles. Pourquoi avoir aussi été de l'autre côté de la frontière linguistique ?
Donc pour rappel, on avait choisi d'aller un peu sonder l'existence du fossé entre les citoyens et la politique, mesurer sa profondeur, et on s'était dit que c'était intéressant pour ça d'aller à la rencontre des citoyens. Donc on avait fait ces porte-à-porte, donc frapper aux portes de citoyens dans 6 rues francophones, 4 en Wallonie, 2 à Bruxelles. Et l'idée était chaque fois de frapper à la porte d'une rue déterminée parce qu'elle avait un nom qui avait rapport avec l'élection, rue des citoyens Anderlecht, boulevard de la Constitution à Liège, par exemple. Et dès que les gens ouvraient la porte, de dire voilà, bonjour, je suis blablabla, et puis est-ce que vous allez aller voter ? Et à partir de cette question-là, qui était toujours la même, d'entamer une discussion sur la confiance dans la politique, les thèmes de priorité, le message aux politiques. Et on terminait toujours par la même question, qui est ce qu'on a appelé après les pépites, c'est-à-dire on demandait aux gens qu'est-ce qui les rendait heureux. Et donc on s'est dit que c'était bien de le faire en côté francophone, donc ça a été publié fin janvier, toujours disponible sur le site d'ailleurs. Et puis on avait quand même l'envie de le faire du côté flamand, et donc on a choisi de faire une dimension un petit peu plus réduite, c'est-à-dire qu'on a choisi de le faire dans 2 rues.
Lesquelles ? Vous avez choisi quel nom lié là aussi à la démocratie, aux élections ?
Alors le choix, Pierre, 2, c'est peu, hein, donc pour la représentativité, etc. Donc en fait, on s'est dit, grosso modo, on va choisir une ville et quelque chose de rural. Dans le rural, j'avais vraiment l'envie d'aller dans la région des agriculteurs et du stikstof, et dont on disait que le Vlaams Belang en avait fait une terre de recrutement notamment, et qui est plutôt entre Bruges, la Flandre occidentale, Bernem, Wingene, etc. Donc c'était ce coin-là. Et Anvers, on avait plutôt choisi Anvers en fait, parce qu'on disait que c'est quand même une grande métropole. Tirol. Et donc à Anvers, bon, je m'étais dit, il y a une rue assez intéressante qui s'appelle la Wetstraat, rue de la Loi. Pierre, c'était formidable évidemment. Et d'autant plus formidable pour moi, je me disais, tiens, c'est juste en bordure de Borgerhout, qui est le quartier connu pour la criminalité, notamment suite au trafic de drogue, et aussi à forte population étrangère ou d'origine étrangère. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, bah, tiens, là, à la Wetstraat...
C'est la rue parfaite.
Parfaite, je ne sais pas, mais on allait trouver des gens qui votaient Belang, qui étaient, bon, on se dit, c'est quand même 30% de la population dans les sondages, de population flamande, et, ou alors des gens qui sont de la diversité et qui disent un peu leurs craintes ou qui disent un peu le lien qu'ils ont avec le système électoral et l'élection et la politique. Et alors, premier arrêt dans cette Wetstraat, une jeune femme absolument charmante, graphiste, Yann, son mari DJ qui a fait Sciences Po. Et alors, elle nous a donné le ton. C'est-à-dire que la rue est en fait la rue du bonheur. C'est la rue du citoyen heureux. Alors, il y a des fleurs. C'est tout un collectif citoyen qui a décidé de vergrooning, donc de faire du vergrooning de la rue, c'est-à-dire de le verduriser. Donc, il y a des petits jardins. Ils ont enlevé des pavés, planté des plantes. Il y a des bacs sur toutes les appuis-fenêtres. Il y a des parkings pour vélos. Tout ça après une grande consultation citoyenne. Il y a une énorme solidarité. Et bon, les gens dans cette rue, en fait, disaient qu'ils allaient tous aller voter. Plutôt gauche ou au centre, mais avec quand même un petit problème face à l'efficacité de la politique. Mais en tout cas, vraiment, c'est la rue du bonheur. Donc tout du long, on a rencontré que des gens satisfaits, qui adoraient leur quartier et qui nous ont très très bien reçus. Et puis de l'autre côté, près de Bernem, on a choisi Bernem, qui est juste au-dessus de Alter. Et là, on avait du mal à trouver, je voulais surtout trouver des fermiers, mais les fermiers n'étaient pas dans une rue qui portait le nom choisi, enfin visé. Et donc j'ai trouvé une rue qui s'appelait la Well Daddy Hate Strat, ce qui veut dire rue de la bonne volonté, de la bienfaisance. Et comme m'a dit une habitante, elle m'a dit, mais oui, la politique, normalement, c'est good doing, donc faire du bien. Et donc, la rue est adaptée. Donc, c'est ce que normalement devrait faire le politique, faire de la bienfaisance. Et alors, on a un peu fait des crochets par des rues parallèles pour aller trouver des fermiers dans des grandes exploitations, soit éleveurs de porcs, soit éleveurs de vaches et qui font de la traite pour avoir du lait, etc., qui ont aussi des cultures. Et là aussi, un mélange d'âge, de génération et beaucoup de gens absolument surpris et absolument ravis de nous voir.
Vous avez été reçu comment, j'allais poser la question, l'idée de voir une journaliste francophone en plus débarquer sur le pas de leur porte, comment est-ce qu'ils ont réagi vos interlocuteurs et interlocutrices?
Oui, et en plus, je ne vais pas faire être très prétentieuse, mais Béatrice Delvaux, elle a connu ses crises avec la NVA et Bardo Ever, qui en avait fait un peu son, à un moment donné, son ennemi personnel, et donc je me disais, tiens, qu'est-ce qui reste de tout ça? En fait, il y a des gens qui m'ont reconnu de la télévision flamande ou du Standard, où j'écris parfois, et donc, ils étaient, voilà, je vous connais, voilà. Mais sinon, de façon extrêmement générale, ils étaient ravis d'abord que les francophones s'intéressent à eux, trouvaient ça super, et très envie de parler. En fait, exactement la même réception que du côté francophone. Toujours à la fin de la conversation, très heureux, c'était gai de discuter, ça nous a pris du temps, on a pris du temps pour parler des choses, ça, c'était important. Et après la rencontre, ce qui se passe encore aujourd'hui avec les gens, les habitants des portes francophones, des liens, des gens qui m'envoient des WhatsApp.
Vous avez gardé le contact?
Ah oui, parce qu'il y en a même que j'ai invité, je les ai invités tous en fait, s'ils voulaient venir aux interviews, assister aux interviews par nos lecteurs des présidents de parti. Et donc il y en avait deux qui étaient là pour Georges-Louis Boucher, il y en a qui viennent, enfin à chaque épisode ils viennent avec leurs enfants, ils disent tiens, est-ce qu'on peut venir avec nos enfants? Et ici par exemple j'ai une dame de la Wetstraat, Ingrid, qui est un peu celle qui a mis au point cette plantation de fleurs, etc. Et bien le lundi après notre rencontre, elle m'a envoyé par WhatsApp une série de photos de Borgerhout où il y avait eu le dimanche la table la plus longue du monde qui réunissait des gens qui fêtaient le Ramadan et Pâques à partir de 19h sur la Turnhoutsebaan. Et elle m'a envoyé plusieurs photos et elle m'a dit vous savez, il n'y a pas une meilleure représentation de ce qu'est notre quartier, je vous l'ai expliqué, mais là je vous le montre.
À part ce plaisir que vous avez trouvé chez les gens à être interrogés, à l'occasion qu'on leur donne de parler, de s'exprimer, il y a d'autres ponts qu'on peut faire entre ce que vous avez pu ressentir côté francophone et côté néerlandophone?
Alors évidemment, l'échantillon est beaucoup moins représentatif. Je suis tombée sur des gens qui, pour la plupart, vraiment à part un ou deux, n'allaient pas voter Vlaams Belang ou disaient du Belang, tiens, mais bon, ils promettent des choses, ils vont quand même pas les faire, donc ça sert à rien, c'est un vote inutile. J'ai trouvé des gens qui avaient, pour beaucoup, la volonté de voter, parce qu'ils trouvent que c'est un devoir démocratique. Les femmes, les jeunes femmes, une jeune femme, Valérie, dans la Well Daddy Hate Strat, qui promenait son petit bébé, qui me dit, mais non, je vais aller voter, en plus pour les femmes, c'est important. longtemps, on a décroché ce droit très tard, donc évidemment qu'on va y aller, mais avec la même incertitude et la même hésitation sur l'idée que la politique pourrait changer les choses, mais ne le fait pas. C'est toujours les mêmes gouvernements, ils font des promesses, ils ne les tiennent pas, ils vont changer des choses, ils ne le font pas, et ils s'occupent plus de communication, d'être sur TikTok et d'avoir leur tête à la une des journaux ou de parler d'eux-mêmes, que de s'occuper de contenu. Et quand on demandait le message, quel message vous adressez, c'était écoutez plus les gens, arrêtez de vous préoccuper de vous-même, osez faire des choses différentes. Il y a même un homme très positif, très charmant en fait, qui allait partir au ski, qui est rentré chez lui pour parler avec nous, avec sa jeune fille adolescente, et alors il a dit, mais à un moment donné, osez faire des choses qu'il faut faire, ayez une vision, et si ça ne réussit pas, vous vous présentez pas aux prochaines élections, vous ferez comme plein d'autres gens, vous ferez autre chose.
C'est marrant parce que c'est quand même des conclusions très similaires à celles que vous avez pu tirer côté francophone. C'est bien la preuve qu'on n'est pas si différent que ça au final.
C'est pas ce qu'on veut prouver nécessairement. C'est vrai que parfois il y a sans doute méconnaissance des deux côtés. Ils se connaissent pas tellement. Mais ce sont des conclusions vraiment très semblables au niveau politique. Et c'était même assez intéressant parce qu'à un moment donné, pour leur montrer ce qu'on avait fait et montrer à quoi ça ressemblait, j'avais pris un reportage qu'on avait fait à Liège. Et alors je disais les citations données à chacun des personnages qu'on avait rencontrés. Et chaque fois que je disais une phrase, ils disaient oui, c'est ça.
Avoir
une vision plus long terme. Oui, ça moi aussi. Et alors, par exemple, à Ouestrat, on trouvait qu'il y avait beaucoup de parallèles aussi un peu dans l'état d'esprit par rapport à l'avenue du suffrage universel à Scarbeck. C'était un peu la même chose. Aussi, ou alors avec Télin qu'on avait fait, où on sentait le poids, parce qu'il y a une fois, c'est Ingrid, elle nous a dit, voter c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que en fait, le citoyen lui-même peut avoir un impact sur son environnement. Ce qu'on avait vraiment ressenti à Télin avec toutes ces associations qui se mobilisaient. Et alors aussi, ça c'était la question de la migration, en tout cas chez ceux qu'on a rencontrés, pour certains, c'était il y a trop de vrimes, certains dans les cafés, comme ça, les cafés un peu les brunes, cafés, comme ils disent, des cafés un peu dans leur jus à l'ancienne, avec des gens qui te payent depuis 10h du matin. Là, ils sont là, ils profitent de nous et tout ça. Mais en général, c'est plutôt, c'est pas un problème à ce point important. Et en tout cas, on doit pouvoir résoudre. Et disant qu'en fait, le slogan du Vlaams Belang qui est Stop Migratie, que un, c'était de toute façon pas applicable juridiquement, et que deux, c'était de toute façon un joie, puisque la migration, on en a besoin. Il y a même, c'était très étonnant, dans un café aussi, qu'on donne toujours rendez-vous avec un café, dans un café le matin avec Dominique, on termine, le photographe, et on termine la journée par une bière dans le même café. Et là, il y a un monsieur qui m'a dit, pourtant 83 ans, un peu au bout de sa vie, et il me dit, oui madame, mais si jamais on arrête la migration, qui est-ce qui va travailler dans les constructions? Qui est-ce qui va nettoyer les maisons? Franchement, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on ne cherchait pas ce qu'on a trouvé, mais on l'a trouvé.
Merci beaucoup Béatrice.
Oui, merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À lundi.